Vous écoutez
RMC.
RMC.
RMC continue à avoir les directs de l'OM. C'est une fuite que j'essaye de trouver.
Non, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça, c'est pour vous. Ça vous donne du pain à moudre là-dedans. Vous êtes très content.
Franchement, je suis au courant de rien. J'ai rien ingéré, j'ai rien compris. Donc, c'est encore des journalistes qui ont lancé ça, à mon avis, non ?
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Gilbert Bribois.
L'after qui continue jusqu'à minuit, comme tous les soirs en direct, évidemment, l'after d'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas avec ce soir le retour, messieurs, dames, de Kevin Diaz. Salut Kevin.
Salut à tous.
T'es des vacances, c'était bien ?
Ah, c'était magnifique.
T'as vu du foot un peu ?
J'ai vu du foot, notamment hier soir avec le Philips Sport Ferrelering qui a éliminé donc l'AS Monaco. J'étais donc à l'aéroport de Montréal où j'ai croisé. Le salut à un auditeur de l'After. C'est pas le seul que j'ai croisé pour le coup.
Bien
au Canada.
Très écouté au Canada, l'After.
Incroyable, la communauté.
On va pas
de l'After.
Se mentir, plus à Montréal qu'à Vancouver.
Oui, c'est vrai. Mais même pas que des Français expatriés, des Canadiens, quoi, des Québécois. Bon, plutôt francophones du coup, mais je les salue tous parce que j'ai eu beaucoup de retours, notamment sur Instagram. Et donc, c'était vraiment des vacances super.
Très bien. Stéphane Guy est là également. Lui, il n'a pas de vacances. Hein. Ça bosse. On regarde les matchs.
Salut Stéphane.
Salut Stéphane, allume ton micro.
Ah,
ça y est, il est allumé. Ça y est, tu nous entends ?
Je vous entends.
Bonsoir Stéphane.
Bonsoir citoyen, bonsoir à tous. Bonsoir Kevin.
Salut Stéphane.
Magnifique bronzage.
Écoute, c'est beau au Canada.
Ouais, je vois ça, dis donc.
Moi, ouais, j'ai pas fait que le Canada.
Bon, alors, au programme jusqu'à minuit, les gars. La Super Coupe d'Europe, évidemment.
Le petit sourire de Kevin sur la qualification du PSV Eindhoven.
Oui, on va y revenir.
Me paye pas beaucoup, quand même.
Ouais, hein, ouais, c'est limite. Non, c'est une provocation pour sa rentrée.
Non, moi, j'avais dit que le Monaco serait favori. J'avais même été taquin avec un 58-42, j'avais dit pour l'AS Monaco, parce que je voulais pas dire 60-40. L'AS Monaco a été supérieur footballistiquement. Mais une fois de plus, le petit irréductible néerlandais, avec quand même trois fois moins de budget, a réussi à se qualifier. Donc, c'est toujours une performance quand même.
Au programme, donc, je le disais jusqu'à minuit. Tiens, ça tombe bien parce qu'on va parler de la responsabilité de Philippe Clément dans l'élimination de Monaco. Stéphane va en parler, ce sera dans quelques secondes. On va parler de la folie à Marseille autour d'Alexis Sanchez. Kevin veut en parler. Alors, tout à l'heure, on a abordé le sportif. On va parler de cette dinguerie hier à l'aéroport. Alors, bien orchestré par le club quand même, hein. Donc on vous racontera un peu les coulisses de tout ça. On va voir où en France possible de voir un truc pareil quand même, parce qu'on a l'impression que c'est assez unique ce qui s'est passé à Marseille. Même si l'an dernier on a vu ça peut-être pour Messi à Paris.
Oui. Et Messi quand même. Oui.
Voilà. Mais là pour Vitinha par exemple.
C'était moins la folie.
Hein. Yeah, ouais, c'était, ouais.
Alors que.
Il y a un peu moins de monde. Peut-être que pour Malanxar à Monaco.
Ils n'ont pas Kambou à Marseille, il y a eu moins la folie aussi.
Ouais, exactement. Bon, on en débat tout à l'heure, supporters de l'OM, on vous attend. Et puis à 23h, analyse de la Super Coupe d'Europe qui est en cours. On aura Paulo Breitner avec nous, supporters de Real, on vous attend. Fred Hermel est toujours en vacances. Je sais pas, la Super Coupe, ça l'intéresse pas, Fred. Il revient que pour la Liga ce week-end. Donc, on en parlera avec vous tout à l'heure. Et puis à 23h20, débat concernant le rôle des sociaux en Espagne. C'est Polo qui a acheté son petit pavé dans la mare lundi dernier. Il a dit que c'était un système obsolète, trompeur, hypocrite. On a un socio du Barça qui veut lui répondre ce soir. Donc, on va organiser le débat. C'est intéressant finalement.
Ouais, c'est un très, 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 voilà, bon débat pour le coup.
Et puis vous verrez que Pedro, qui est socio du Barça, qui sera là, est un très fin connaisseur des arcanes des clubs espagnols, donc ce sera intéressant. 32-16, bien sûr, pour tous ces sujets, le hashtag RMC Live est là sur Twitter et puis Direct Studio sur nos applis RMC et RMC Sport pour vous envoyer tous les messages que vous voulez. C'est totalement gratuit et dispo, donc n'hésitez pas à utiliser ces applis. La deuxième mi-temps de Real Francfort dans quelques instants, mais d'abord on va aller à Monaco pour de l'athlé, les gars. Tout à l'heure on a suivi les principales courses du meeting de Monaco, traditionnel meeting de l'été. Samir Amoudi est sur place pour nous faire un petit bilan de la soirée. Salut Samir.
Salut Gilbert, je sais que ça te parle, hein. Piste aux étoiles et Monaco qui garde encore son statut de meilleur meeting du monde. Ouais, c'est vrai qu'on s'est régalé, hein, Gilbert, parce que il y a déjà eu le 110 mètres haies avec des Français. Certes, Grant Holloway s'est imposé avec 12,99 et c'est assez rare pour le signaler de passer sous les 13 secondes. Mais en plus, nos Français, Sacha Zoya finit 5e, 6e, Pascal Martino Lagarde est 8e, jusqu'au Oumaté. Il faut noter les 13,21 de Sacha Zoya, très proche de ses 13,17 des championnats de France et de bon augure pour les championnats d'Europe. Alors que Faith Kipyegon sur le 1500 mètres féminin, la Kenyane, double championne olympique, a réalisé 3,50,37. Elle s'est approchée à seulement 3 dixièmes du record du monde de l'Éthiopienne Genzebe Dibaba. C'est vous dire que cette piste va toujours aussi vite sur le demi-fond. Et puis le sprint a encore parlé, Gilbert, puisque Shelly-Ann Fraser-Pryce, Mama Rocket, la Jamaïcaine championne du monde en titre, a encore réalisé une performance 10 secondes 62, meilleure performance mondiale de l'année. Elle reste sur 3 courses en 10-6 lors de ses 5 derniers jours en Pologne, en Hongrie et maintenant à Monaco. Et puis ce meeting s'est fini en beauté, Gilbert, avec un 200 mètres d'enfer. Et Noah Lyles, le champion du monde en titre américain, s'est encore imposé après ses 19-31 de Eugene. Il réalise 19-46. C'était merveilleux, je peux aller me coucher tranquille.
Les championnats d'Europe, ça démarre quand?
Ça démarre lundi et ce sera bien évidemment sur RMC.
Excellent. Merci Samir, bonne soirée.
Salut Samir.
Salut à tous.
Le foot maintenant, la deuxième mi-temps de Real Francfort, la Supercoupe, ça se passe à Helsinki. Clément Brossard suit le match. Salut Clément.
Salut Gilbert, salut Kevin, salut Stéphane, salut à toutes et à tous. 1-0 pour le Real Madrid. On joue depuis une minute dans cette seconde période et le but, il est signé David Alaba à la 37e minute. Il n'y a pas eu de changement à la pause, ce qui veut dire qu'on attendra un petit peu encore, on patientera pour voir les premiers pas d'Aurélien Tchouaméni et de Antonio Rüdiger sous le maillot du Real Madrid, avec une équipe du Real qui depuis le début de la partie a été efficace comme à son habitude, parce que dans le duel ils étaient présents. Pourtant les Allemands, ils ont livré une très bonne première partie de première période et puis ils se sont fait endormir et derrière c'est Alaba qui a mis la sanction pour permettre au Real de mener 1-0 après 47 minutes de jeu.
Très bien, à tout à l'heure. Vous avez regardé un peu la première mi-temps les gars?
Oui. Ouais.
Bon, vous en avez pensé
quoi?
Match.
Il y avait de l'intensité comme souvent avec Francfort d'ailleurs.
Le problème c'est qu'on était resté sur la tôle que Francfort a pris face au Bayern, donc on se disait que bon, c'est quand même le Real qui a eu les occasions.
Ouais, il y en a eu aussi pour Francfort. Non, c'est un match très agréable, en tous les cas, avec une différence sans doute de préparation physique entre les deux clubs, hein, qui a déjà commencé ce championnat et l'autre qui ne l'a pas encore commencé. Mais qui, évidemment, il n'y a pas débat hein, entre les habiletés du Real et celles de Francfort. Mais c'est un match beaucoup plus disputé que je ne l'aurais cru.
Ouais, mais quand même, on a l'impression, même physiquement, même si on voit que, notamment là, dans ce début de deuxième mi-temps, le Real fait un peu tourner. Ils sont, bien sûr, en phase un peu encore de préparation. Ils récupèrent avec le ballon. Mais j'ai l'impression que cette équipe, elle s'est pas arrêtée, quoi. C'est-à-dire que tu les vois face à une équipe qui va à 1000 à l'heure. T'as Courtois qui fait 2 exploits. Derrière, t'as Benzema qui est presque décisif. Finalement, sur une belle action collective, il marque. On a l'impression que le rouleau compresseur est toujours en marche et que même quand ils sont en difficulté, ils arrivent quand même à mener au score.
Allez, on suit ça et Clément nous appelle dès qu'il se passe un truc. Il est 22h07, c'est l'heure de revenir sur le match d'hier soir, Monaco-PSV. Kevin, on va voir si tu es d'accord avec Stéphane. Jingle Stéphanie.
Deux jours après, il se scrachait contre Reims à domicile.
Se scrachait.
C'est un mini jingle.
C'est un mini jingle, mais il peut passer.
Se cracher, ça
se cracher. Non, on dit plutôt se cracher.
Ah, se cracher. Oui. D'accord. Ah oui, exact. Là, j'avais même pas à la réécoute.
Ou alors éventuellement se scratcher.
Je ne fais pas la différence. Mais à coup le pas.
Pas de problème. Ça nous fait des jingles. Oui, tu voulais revenir sur le match parce que toi, tu voulais parler de la gestion du match par Clément.
Il y a eu un débat enflammé tout à l'heure.
Oui.
Dans l'after déjà.
J'étais plus sur les budgets et puis tout
oui,
ça.
Oui. Alors, bon, déjà pour moi, il y a une équipe qui est meilleure que l'autre, c'est le Monaco. Il n'y a pas de débat. On nous avait vendu un PSV Eindhoven parce qu'il restait sur cette victoire contre l'Ajax Amsterdam spectaculaire. Donc on attendait à avoir une équipe spectaculaire. On a eu une équipe de gagne petit qui a gagné, qui s'est qualifiée. Donc mérite à eux. Hein. Ils sont qualifiés. Il ne faut pas leur enlever ça. Mais j'ai plus quand même le sentiment que c'est Monaco qui lâche le match, qui perd le match, que Eindhoven qui l'a gagné. Mais c'est pas mon thème. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est dans l'approche du match, la préparation des Monégasques dans leur ensemble et celle de Philippe Clément en particulier sur ce match-là. Le club d'abord, parce que comment il est possible d'arriver pour un match aussi important avec quasiment aucun renfort défensif. avec des points faibles qui étaient déjà très identifiés à Monaco, qui n'ont pas été corrigés durant l'intersaison, et évidemment avec pas de remplaçant pour Tchouaméni. Alors on peut éventuellement comprendre que les joueurs se fassent attendre en sachant où Monaco va jouer en Coupe d'Europe l'année prochaine, mais c'est une faute de club, c'est une faute de direction de club. Et puis après le match de Clément, moi il m'impressionne pas parce que je pense qu'il a pas mis la bonne compo à l'aller, pas mis la bonne compo au retour.
C'est la même d'ailleurs.
C'est la même, et c'est deux fois il s'est trompé. La preuve, c'est que à mesure que ces changements avaient lieu, son équipe s'améliorait. Et il y a un changement qui m'est resté, qui m'a scotché pour le coup. C'est le remplacement de Ben Yedder, 83e minute. Je vois pas l'intérêt de remplacer Ben Yedder. Il y a eu en plus une petite conversation qu'on a vue sur le terrain entre les deux. Ben Yedder lui dit non, tout va bien.
Plusieurs minutes même avant qu'il sorte.
Ouais, je peux continuer.
Donc ça veut dire qu'il aurait pu le sortir encore plus tôt.
Ouais, mais voilà, le Ben Yedder d'hier soir, je vois pas, il y a pas aucune raison de le remplacer et de s'en priver pour la prolongation. C'est une faute de coaching. Alors ça veut pas dire, attention, hein, moi je n'aime pas porter des anathèmes sur les uns ou les autres. Donc Clément est un excellent entraîneur, il a des références à faire valoir, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais
tu peux être mauvais sur un match, comme
voilà, et il montrera ses qualités plus tard, mais je pense qu'il s'est loupé. Coach Courbis a toujours cette expression de dire que les entraîneurs aussi peuvent être dans un mauvais jour, et je pense qu'il a été dans un mauvais jour. Et je pense qu'il a un effectif qui n'est pas simple. Je ne comprends pas la logique. Je l'avais déjà dit après le match aller avec le recrutement de Minamino, je ne vois pas ce qu'il apporte comme variété à l'AS Monaco.
C'est une déception totale, hein, pardon.
Mais l'erreur, c'est peut-être aussi de l'avoir jeté dans le grand bain tout de suite. Dans les grands clubs étrangers, quand une recrue phare, où on voit Klopp avec Nunez, pour l'instant il démarre pas les matchs, il rentre, et c'était peut-être aussi trop attente de lui sur ces matchs là puis il a une foison de choix possibles, et il s'est un peu perdu dans ses différentes possibilités. Voilà, alors sans l'enterrer, mais c'est dommage, parce qu'encore une fois moi je connaissais pas le PSV Eindhoven. J'avais entendu notamment sur nos antennes un spécialiste des Pays-Bas, on avait l'impression qu'il jouait le Bayern Munich Monaco. Il y a pas photo, quoi, mais il y a pas photo de loin, quoi. Il y a une équipe, Monaco est bien supérieure au PSV Eindhoven, et à l'arrivée Monaco va jouer l'Europa League. Je pense que le PSV Eindhoven aura aussi des difficultés contre les Rangers.
Oh, le fameux spécialiste des Pays-Bas, c'était pas Kevin, hein, qui était en vacances.
C'était pas Kevin qui était en vacances. Mais Kevin nous aurait mis en garde aussi. Et les conclusions qui s'en suivent aujourd'hui, me gênent, parce qu'on nous explique que c'était le débat qu'ils avaient tout à l'heure, que ça y est, on est en danger à l'indice UEFA, qu'on est. Il y a quand même pas photo entre Championnat de France, Championnat des Pays-Bas, qu'on le veuille. Non, il y a un grand club aux Pays-Bas, qui est l'Ajax d'Amsterdam.
C'est pas ce qu'on dit.
Et puis voilà, quoi.
Non, justement pas. Et puis voilà, en tout cas, parce que Stéphane.
Tout de même, on se fait sortir par Feyenoord.
Ouais, bien sûr.
Dernière saison, et là par le PSV. Hein.
Non, puis pas que ça. Et puis l'Ajax qui élimine Lyon il y a 4-5 ans en Europa League.
C'est
aussi.
Vrai que si tu regardes ces résultats-là, tu peux dire qu'il y a un match.
Il y a un moment, il y a quand même une réalité. Bien sûr que la Ligue 1 est supérieure au championnat néerlandais. Mais ce qu'on dit, et je pense que Daniel est d'accord avec moi, c'est que les trois meilleures équipes du championnat néerlandais, comme les trois meilleures équipes du championnat portugais, par exemple, pour prendre que ces deux compétitions-là, que je suis particulièrement, elles ont rien à envier aux équipes qui sont derrière le Paris Saint-Germain. Donc, sur un match, c'est 50-50.
Non, mais moi, je partage ça. Ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé hier dans ce choc entre Monaco et le PSV Eindhoven, les raisons, elles sont à voir à Monaco.
Bien sûr.
Uniquement dans la gestion interne de Monaco.
Oui, mais.
Pas dans la. Des fois, vous rencontrez un adversaire. Ils se sont sabordés, quoi.
Pas que, parce que l'an dernier, pour RMC Sport, j'étais à Eindhoven pour PSV Eindhoven Monaco. Ouais. Monaco gagne 2-1 en Europa League, mais Monaco est dominé tout le match et il gagne 2-1. Là, c'est l'inverse. C'est Monaco qui domine.
T'as vu PSV Eindhoven de dominer Monaco? Non, tu veux dire Eindhoven dominer Monaco l'année dernière?
Là, je te parlais l'année dernière.
Non, t'as dit l'inverse.
Là, cette année, c'est Monaco qui a clairement dominé le PSV, mais le PSV se qualifie. Et c'est comme, on a l'impression que Benfica, ils sont toujours, peu importe la génération qu'ils ont, ils arrivent toujours à aller en Ligue des Champions, peu importe le barrage qu'ils rencontrent. Donc, ça peut paraître irrationnel, mais on a l'impression que l'histoire de certains clubs européens, ça peut être le PSV, ça peut être des fois Benfica, ça peut être des fois d'autres clubs qui ont des bien plus petits budgets quand même que Monaco, en l'occurrence,
monsieur,
je le rappelais tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose quand même, on est obligé de le prendre en compte.
Ouais, évidemment.
Le PSV Eindhoven, c'est 85 millions d'euros de budget. Aujourd'hui, c'est le budget de Rennes en Ligue 1. Tu vois,
c'est pas mal, hein.
Non, mais c'est pas mal. Mais Monaco, c'est 200, oui. C'est plus de 240. Et sans compter.
Les Glasgow Rangers, qui est en finale de Ligue Europa, je sais pas combien c'est, mais enfin,
donc voilà. Donc, je veux dire, c'est, ce qui est une chose est sûre, c'est que c'est pas une question d'argent.
C'est un énorme budget à les Glasgow.
Après, pour moi, Monaco était supérieur à l'aller et surtout au retour. Mais ils ne sont pas passés. Là où je vais pas être d'accord avec toi, Stéphane, c'est que pour moi, Philippe Clément, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Parce que oui, on peut dire qu'il, moi, j'aurais pas forcément fait démarrer Minamino, mais si c'est pour mettre Gelson Martins, c'est pas le Brésil non plus. Plutôt peut-être mettre Sofiane Diop. Pourquoi pas mettre Boadou, qui connaît ce genre d'équipe, qui est connu là-bas, qui avait d'ailleurs marqué en Europa League l'an dernier. Il y avait peut-être deux trois trucs à tenter et encore. Mais il y a un moment, le foot, ça reste quand même aussi des trucs qui sont un peu irrationnels dans le sens où voilà, t'as le poteau une fois, deux fois, trois fois avec
oui,
l'allée.
Oui, bien sûr, bien sûr.
T'as une poussette qui est quand même claire de Gutiérrez parce que moi, je regardais le match à la télé et on me parle de hors-jeu, mais moi, je vois tout de suite la poussette. Il y a une poussette, elle est claire pour moi, elle doit siffler, il y a une faute sur le but. Donc voilà, bon, l'arbitre, je sais pas pourquoi, je sais ce qu'il considère.
Et tu penses qu'il y a péno sur l'action d'avant?
Non, péno là, non. Moi, je dirais pas que c'est flagrant.
Sur le tacle là,
ouais.
On n'a jamais revu l'image hein, au passage.
Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas vraiment revu. Par contre,
il y en a une fois. Si, moi j'ai vu.
Bah, ça a été très vite quoi. Pour moi, la faute de Gutiérrez, elle est réelle.
Mais je suis pas sûr que ce soit dans la surface en fait. C'est vraiment limite. Donc bon, bref.
Voilà, je pense que l'entraîneur, il fait quand même du bon boulot depuis qu'il est arrivé. Monaco, il y a une seule chose où je vais pas être d'accord avec lui, c'est qu'après le match de Strasbourg, il a dit à une réponse en conférence de presse, ah oui, alors là vous avez fait jouer peut-être entre guillemets les remplaçants, mais là ça va être les titulaires contre le PSV. Il a dit non, aujourd'hui il y a plus de remplaçants, il y a plus de titulaires. J'entends des entraîneurs qui disent ouais, j'ai beaucoup regardé Manchester City. Attention, Liverpool, ils ont une équipe type. Manchester City, c'est un autre level.
Oui, ils ont une équipe type aussi.
Ils ont une équipe type aussi.
Un élément ou deux près, ouais. Tu sais les joueurs qui vont jouer.
Mais moi, ça, je n'y crois pas. L'entraîneur qui répond maintenant, les entraîneurs, oui, il y a les cinq changements, oui, c'est important.
Oui, mais ça, c'est un élément. Moi, je pense que c'est un élément. On en a parlé avant-hier dans l'after avec Gilbert. C'est un élément nouveau du foot, c'est ça que je vois, qui révolutionne le foot et qui va être obligé, notamment les entraîneurs, à s'adapter. Mais... moi, je pense que Clément. Peut-être est sans doute un très bon entraîneur, mais il y a même pas de débat là-dessus. Il a un pedigree, il a un parcours, etc. Moi, je pense qu'il s'est loupé, et notamment dans son coaching hier. En plus de sa compo d'équipe.
Je reviens,
ça se joue pas grand-chose. Tu vois.
Petite parenthèse VAR, parce que de Monaco est concerné dans les deux cas d'ailleurs. Il y a quand même, on a un souci récurrent sur les hors-jeux. Et les Anglais se sont emparés de cette question avant les autres, comme d'habitude. En disant nous on veut laisser une petite marge d'erreur et tout, mais Monaco le match contre Strasbourg, hors jeu pas hors jeu, même les mecs dans le car n'étaient pas d'accord. Bon, d'ailleurs parenthèse, je crois qu'on l'a pas raconté ça, vous savez la fameuse image avec le révélateur doit être envoyée par le VAR Center au diffuseur, ils l'ont jamais reçu, c'est assez étrange quand même.
Bon, ouais, c'est étrange.
Et là hier pareil, le VAR en fait instille encore une fois le doute. Donc là, il y a une info qui est sortie aujourd'hui, comme quoi, à partir de ce soir là, il y a le hors-jeu semi-automatique là. Alors je sais pas si c'est déjà Clément, il y a eu un hors-jeu semi-automatique ou t'as vu quelque chose ou...
bah, tout ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas eu d'erreur. En tout cas, depuis le début, il y a des caméras qui sont un petit peu partout dispatchées dans le stade pour analyser les déplacements des joueurs et du ballon pour faciliter justement la détection des hors-jeux.
Il n'y a pas eu de hors-jeu litigieux.
Il n'y a pas eu de hors-jeu litigieux depuis le début. Non.
Bon.
Non mais ça, ce sera aussi un problème.
Non mais j'ai avoué un moment. Enfin, moi, ça me rend fou en fait, parce que la problématique fondamentale, c'est que le VAR, qui est censé te régler des problèmes, en crée des nouveaux, parce que du coup, tu déresponsabilises les arbitres, donc du coup, tu comptes sur le VAR. Mais après, tu te rends compte que le VAR, n'arrive pas à te donner la bonne image. Tu voilà.
Et puis c'est pareil, regarde.
Et au final, tu en veux encore plus à l'arbitre, qui lui n'y est pour rien.
Hier, je regarde le match
et c'est encore plus énervant.
Et ceux qui, les commentateurs, qui pour le coup sont excellents, mais te parlent que du hors-jeu. Mais en fait, c'est pas le hors-jeu.
Oui, toi, pour toi, c'est la poussette.
À la première seconde, c'est la faute que réclament les Monégasques. Oui. C'est pas le hors-jeu. Parce que les Monégasques, ils réclament pas un hors-jeu comme ça, à courir sur l'arbitre. Déjà, quand le gars réagit comme ça, c'est souvent une faute, c'est un contact. Parce que le hors-jeu, ils peuvent pas le voir comme ça à l'œil nu, c'est très rare. Donc, et quand ils courent sur l'arbitre, moi, je dis, attends, il y a une faute. Et sur le premier ralenti, je vois que Gutiérrez pousse. Mais peut-être que les arbitres, eux, ne vérifiaient que le hors-jeu. Parce qu'il y a ça aussi. Qu'est-ce qu'ils vérifient? Qu'est-ce qu'ils décident de vérifier? Ils te disent, peut-être qu'ils disent pas à l'arbitre, tiens, il y a une poussette. Non, bon, y a pas hors-jeu. Ah mais il râle les gars de Monaco quand même, c'est bizarre. Parce que souvent
il y a un autre point de règlement, je sais pas si vous avez suivi ça, il y a beaucoup de Monégasques hier qui faisaient circuler des images où ils montraient que le coup franc du hors-jeu précédent
Il était pas dans la
partait du camp Monégasque. Ouais. Alors en fait, il y a pas de problème en fait.
Oui.
C'est que tu peux pas être hors jeu dans ton camp, mais si tu es hors jeu dans le camp adverse, mais que la passe part de ton camp, ouais, t'es hors jeu.
Non, et si tu touches le ballon aussi, c'est à l'endroit où tu touches le ballon qui peut être tendancieux, c'est-à-dire que tu peux être hors jeu dans le camp adverse et toucher le ballon dans ton propre camp, et là le coup franc peut être joué à cet endroit-là.
Mais bon, là en l'occurrence, il y a pas de problème.
Ouais,
en fait.
Mais ça c'est pas très grave à 2 mètres près, c'est pas ça qui change énormément. Mais c'est vrai que toutes ces histoires.
Non, mais ça aurait pu être une faute technique.
Ça ajoute à la frustration et l'entraîneur. Pareil, moi j'ai pas entendu Clément parler de l'arbitrage à la fin du match, mais s'il m'avait dit il y a une poussette à la 89e, je peux pas l'empêcher d'en parler parce qu'il est dans la. Je pense même pas qu'il l'a fait, en tout cas je l'ai pas entendu. Mais je veux dire, je pense que c'est dur de taper sur l'entraîneur là parce qu'ils ont fait tellement une grosse remontée, c'est pareil. Est-ce qu'on peut en vouloir à l'entraîneur? Je dis pas que c'est toi qui le dis, Stéphane, mais est-ce que quelqu'un peut dire ah ouais, mais Monaco ils ont perdu la dernière seconde? Un ballon dégagé, pas dégagé, hier un poteau rentrant, sortant, alors que dans le match, dans le jeu, t'es dominateur, t'es meilleur que ton adversaire. Il y a malheureusement des matchs où ça tourne pas en faveur de l'équipe française. Par contre, ce qui est un peu anormal, c'est que c'est récurrent quand même, face à des équipes qui, footballistiquement, semblent inférieures, mais souvent, on passe pas quand même.
Dans un instant, on va prendre l'avis de Stéphane au 32-16, supporter de Monaco, pour clôturer le débat. Et ensuite, on parlera de la folie des supporters marseillais hier soir à Marignane. Et de ces images assez inhabituelles en France. On voit souvent ça en Turquie, en Grèce et ailleurs. Mais en France, bof, pas trop. Est-ce que c'est une nouvelle mode? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il va y avoir maintenant des compétitions entre clubs? On va se tirer la bourre peut-être pour savoir qui fait le mieux. On va en parler, en discuter d'ici 23h. À tout de suite.
RMC L'Afterfoot, Gilbert Bribois,
Stéphane Guillet, Kevin Diaz également. Point sur la Super Coupe d'Europe, Real Francfort. Clément,
62 minutes de jeu, 63 même à l'instant, 1-0 pour le Real Madrid. Le buteur David Alaba à la 37e minute. On a vu le Real proche du break, d'abord sur une frappe de Vinicius contrée par dévié du moins par Karim Benzema, qui était à deux doigts de tromper Kevin Trapp, et puis une barre transversale de Casemiro du pied gauche. Donc il n'était pas loin non plus, Kevin Trapp, d'encaisser ce deuxième but. Pour l'instant, ça tient pour le Real, et Francfort qui a tenté de réagir juste à l'instant. Kolo Muani est rentré en jeu, l'ancien Nantais, tout comme Mario Götze, il y a quelques minutes. 1-0 toujours pour le Real après 64 minutes de jeu.
À tout à l'heure. Bon, concluons sur Monaco. Stéphane est là au 32-16. Stéphane, bonsoir.
Bonsoir messieurs. Je sais pas, j'espère que vous m'entendez bien. Bonsoir.
On t'entend très bien.
Bonsoir Stéphane, Kevin et Gilbert.
D'accord avec ton homonyme?
Alors justement, je vais faire trois points et vous allez voir pour qui je suis d'accord. Trois points très rapides. Vas-y. Alors premier point, est-ce la défaite de trop pour Philippe Clément? Deuxième point, peut-on imputer la défaite à Philippe Clément? Et troisième point...
Là, tu poses des questions. Moi, je préférerais des informations.
Philippe Clément doit-il rester? Si oui, pourquoi doit-il partir?
Ah, non, alors, donc tes réponses.
Alors justement, plus sérieusement, en effet, bon, Philippe Clément, faut pas, je tombe dessus un peu de manière caricaturale. Mais moi, je me demande si, au vu du match retour, comme Kevin l'a très bien dit par rapport à l'an dernier aux phases de groupe où Monaco avait été inférieur et il avait pourtant emporté, là, cette année, ça a été l'inverse. Et je me demande si Philippe Clément a quand même regardé le match aller, parce que le début du match hier a été exactement identique à la semaine dernière, à savoir que Monaco fait 20 très bonnes premières minutes, et puis le PSV Eindhoven procède en compte et marque un but. Alors pourquoi? Parce que sur les deux matchs, je ne dis pas que c'était le cas du PSV Eindhoven sur toute la saison, que ce sera le cas sur toute la saison qui va arriver.
Un but en Super Coupe d'Europe, Clément.
Le but de Karim Benzema, évidemment, l'inévitable, qui inscrit un but peut-être historique, ou en tout cas qui écrit un petit peu plus sa légende du côté du Real, puisqu'il dépasse Raoul avec 324 buts. Il devient le deuxième plus grand buteur de l'histoire du Real Madrid. Lui qui avait dit « Je me prépare pour faire encore mieux que la saison dernière », ça paraissait compliqué, mais il commence parfaitement cette saison. 2-0 pour le Real. Karim Benzema est le deuxième buteur.
Très bien.
Il s'est un peu trouvé. Il a validé le but, non? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une position compliquée de Vinicius.
Oui, exactement. Et dis-moi, Trapp, enfin, je m'excuse, mais là, il se trouve encore, là.
Ouais.
Contre le Bayern, c'était un cataclysme. En fait, il est bon, Trapp, ou il est nul en vérité? Enfin, je ce qu'il fait là.
On va dire.
Là, on va dire. Faut pas vous décrire ce qu'il fait, mais enfin, c'est là, ça fait gardien amateur. Hein.
Pour te répondre et surtout pour paraphraser le légendaire coach Courbis, on va dire qu'il est moyen.
Oui, à l'échelle de coach Courbis, quand il dit qu'il est meilleur,
est-ce qu'il est meilleur que Nubel? C'est ça, on peut demander à Stéphane pour venir à un débat, parce que là, c'est pareil.
Je pense qu'il est meilleur que Nubel.
On a une AS Monaco avec un gardien de but, c'est galabru.
Il paraît que les Allemands, c'est les meilleurs du monde. Selon la légende.
Non, je sais pas ce que t'en penses, toi qui les suis beaucoup plus assidûment que moi, sans doute, mais chaque fois que je vois Monaco jouer, je me demande s'il y a un gardien de but.
Alors, bah déjà, me faire couper par un but de Karim Benzema, c'est pas grave, au contraire, c'est même un honneur. Et pour répondre à ta question, Stéphane, nouvelle, moi je suis mitigé pour l'instant concernant son cas, mais après, bon, j'ai pas grand chose à lui reprocher hier, quoi. C'est mitigé, c'est vrai que.
Tu peux lui demander de temps en temps d'être décisif quand même sur. Bon, il avait été à Strasbourg trois jours plus tôt, il a peut-être fait son quota pour le mois d'août, je sais pas, mais.
Contre Strasbourg, il a quand même été un petit peu décisif. Après, bon, c'est le début de saison.
Mais ce que tu disais, Stéphane, tout à l'heure, c'est juste dans le sens où.
Il n'avait rien développé.
Non, il n'a rien dit, puisqu'il
a posé des questions.
Voilà, moi j'aimerais bien que tu apportes tes réponses, Stéphane.
Ah ben, avec grand plaisir. Non, en fait, ce que j'ai trouvé par rapport au match aller de Monaco contre Eindhoven, c'est que sur ce match-là, Eindhoven n'était pas super à l'aise avec le ballon.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Qu'ils étaient essentiellement dans leurs 20 mètres à descendre à 10 ou 11 et qui procédaient en contre. Et souvent, Monaco, lors du premier match, s'engouffrait dans un entonnoir dans l'axe avec Minamino qui rentre, Golovin qui rentre et Ben Yedder volant. Et on a vu avec les entrées au match aller que ça changeait la donne quand même, de Gelson, de Diop, de Mbolo. Et du coup, au match retour, je me suis dit, tiens, si j'étais Philippe Clément, bien sûr que je ne suis pas, je suis qu'un modeste spectateur le cul sur mon canapé à commenter ce que font les autres. C'est là le rôle le plus facile, comme disait Bernard Tapie. Mais je me dis, alors, pourquoi pas tenter d'aspirer l'équipe d'Eindhoven en leur laissant le ballon, en profitant de leurs erreurs, et de jouer dans leur dos, parce que Monaco a des atouts. Et on peut commencer avec Gelson Martins, et puis s'il est cuit à la 60e, on peut faire rentrer Diop, et puis si Diop il est cuit, on peut faire rentrer Diata, et puis il y a Mbolo. Et en fait, non. Minamino Golovin également. Donc le pauvre Minamino, on lui tombe dessus. Voilà. Mais il y avait Monaco, les 20 premières minutes hier, se casser les dents contre un mur d'Eindhoven,
ouais. Plein axe. Donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que tu dis, c'est très juste, parce que tu as fait un parallèle avec l'an dernier. Et tout à l'heure, je discutais très rapidement avec Walid lorsque on a échangé nos places, et il me disait, le PSV, c'est pas fou footballistiquement. Mais attention, le PSV Eindhoven, c'est pas l'Ajax Amsterdam, c'est un tout autre style. C'est pour ça que je rappelle que le P de PSV, ça veut dire Philips, parce que à la base, c'est une équipe d'ouvriers, c'est une équipe qui n'a pas peur d'être un peu plus moche. On a vu les ramasseurs de balles, ils ont perdu du temps. Voilà, c'est une équipe qui est beaucoup moins belle à avoir joué historiquement que l'Ajax.
Ça devrait être un truc extrêmement réglementé par l'UEFA. Le rôle des ramasseurs de balles, bien sûr.
Ah oui,
bien sûr.
Et j'avoue que je l'ai fait aussi en tant que ramasseur de balles, mais juste pour te dire. Donc pour continuer, pourquoi le PSV pose des grandes difficultés à l'Ajax, justement? Parce que l'Ajax, c'est une équipe qui aime avoir le ballon et le PSV, c'est une équipe de contre. Là, il leur manquait un de leurs meilleurs joueurs qui est Madueke, le jeune anglais, qui lui va 2000 en contre. Et c'est là où ils sont forts, les joueurs du PSV. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont marqué le premier but hier. Et l'an dernier, c'était l'inverse. Tu as parlé du match de l'an dernier en Europa League. C'est Monaco qui a contré le PSV et qui a fini par leur faire mal. Et je pense que peut-être que laisser le ballon à cette équipe du PSV pour mieux les contrer avec les joueurs rapides que sont Gelson, même Bolo également, ça aurait pu être un plan de jeu. Maintenant, je peux pas reprocher à Philippe Clément de vouloir imposer quelque chose à l'adversaire.
Derrière toi, Stéphane, c'est une mobilette qui partait ou une vache qu'on a entendue?
Oui, non, c'était une mobilette.
Ah bon.
Je suis désolé, je suis.
Non, ça faisait un bruit très fermier.
J'ai pu effectivement entendre une vache.
Eux aussi.
C'est heureux.
et du coup, juste pour conclure, avant de vous laisser parler de la ferveur de l'accueil d'Alexis Sanchez, qui est sans doute bien plus intéressant que le triste résultat d'hier. Là où, enfin, en effet, Clément, on peut. Je ne tombe pas vraiment dessus. Je regrette un petit peu l'approche du match retour compte tenu du match aller. Et là où, à mon sens aussi, il y a une autre erreur, après, je ne sais pas si c'est lui ou les joueurs sur le terrain, c'est. Clément, il avait raison sur une chose, c'est que Monaco était nettement supérieur au PSG d'un point de vue physique. On l'a bien vu de toute façon. Enfin, moi, j'ai trouvé que les joueurs de Monaco, ils ont fait 120 minutes de haute intensité. Et lorsque Monaco menait 2-1 dans les 10 dernières minutes, vu que le PSG était cuit, enfin, moi, je les ai trouvés vraiment cuits comparé aux joueurs de l'ASM, plutôt que de tenter à chaque fois d'accélérer, de prendre des risques et d'éventuellement perdre le ballon et de s'exposer, faites tourner, faites-les courir. Le ballon, il court, l'adversaire aussi, et on les épuise encore plus. Et au lieu de ça, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Et après, on peut parler de ce qu'on veut ou pas des fautes. Enfin, pour moi, il n'y a pas pénalty pour Monaco au match aller, parce que si on siffle un pénalty comme ça, dans ce cas-là, on siffle tout.
Ouais, il n'y a pas faute.
La seule, le tacle que se prend Mbolo par Obispo, je crois que c'est Obispo.
Oui.
Si jamais il y a faute, il me semble que c'est le début de la faute est avant la surface de réparation. Le seul truc litigieux, en effet, c'est la poussette de Gutiérrez. Mais en fait, tout ça, c'est une accumulation de mauvaise gestion du match qui font que Monaco passe à la trapinette, quoi. Donc c'est dommage, après c'est le football. Moi je souhaite au PSV qu'il fasse un très bon match contre les Glasgow et on verra ce que ça donne. Mais après, bon, Monaco.
Vous êtes de très gentils supporters à Monaco. Et
non, mais après, bon, ça. Oui,
et je peux te dire que si jamais Lyon ou Marseille avaient été battus dans les mêmes conditions que Monaco hier, il y aurait d'autres débats aujourd'hui que ceux qu'on entend.
Bah, regarde, à Lyon, on parle encore de pénalty sur Nilmar.
D'ailleurs, au Philippe Stadio.
Voilà. C'était quand même il y a quelques années.
Il y avait pénalty sur Nilmar.
Il y avait pénalty sur Nilmar. Et là, on ne dit pas pénalty sur Mbappé.
Il n'y avait rien du grand Aurélio Gomez.
Aurélio Gomez, il le découpe en quatre. Non, là-dessus, mais, Kevin, t'as pas le droit. Franchement. Merci Stéphane.
C'était déjà le PSV.
Moi, bah oui. Exactement. Salut Stéphane, à bientôt.
Bon, très bonne soirée à vous, bonne émission.
Salut Stéphane.
Bonne soirée. Ah. Toujours 2-0 pour le Real face à Francfort dans quelques instants. L'OM au programme avec l'arrivée hier d'Alexis Sanchez. Est-ce que l'OM a décroché la palme de la passion hier ou bien est-ce que finalement tout ça a été bien orchestré par le club? On va raconter tout ça et puis on aura avec nous un des supporters emblématiques de l'OM qui sera là, le célèbre Thierry alias Titi. C'est toi le boss. Vous connaissez Titi?
Non. Bien sûr.
Je vous le présente dans quelques instants. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Gilbert Bribois.
22h34, Stéphane Guy est là, Kevin Diaz est là, l'OM est au programme. Pourquoi ? Parce qu'hier, bien sûr, tout le foot français a été bluffé par l'accueil réservé à Alexis Sanchez à l'aéroport à Marseille.
Même le foot mondial, puisque les Chiliens étaient devant leur télé, en haleine.
Peut-être.
Un accueil à la turque. Il y avait les toilettes à la turque.
Alors peut-être que les supporters de l'Inter, ça les a fait marrer, vu qu'ils sont un peu débarrassés.
Mon avis tranché, là, Stéphane.
Ah, pardon, excuse-moi.
On va en parler, Kevin, je sais que tu as un avis donc assez déterminé sur la question. On va en parler avec un des supporters emblématiques de l'OM qui était présent en juin dernier quand nous étions à Burel pour notre étape de l'After et dans le Pré. Il s'appelle Thierry. Thierry, bonsoir.
Bonsoir.
Tu nous entends bien ?
Oui, j'ai oublié ton prénom. Oui, je vous entends.
Moi, c'est Gilbert, moi.
Oui, Gilbert, j'avais oublié ton prénom, excuse-moi.
C'est pas grave.
Bonsoir, Kevin. Bonsoir, Stéphane.
Salut, bonsoir.
Alors, vous pouvez suivre Thierry sur Twitter. Hein. Thierry, avec entre parenthèses, Titi, c'est toi le boss. Si vous voulez une mine d'infos sur l'OM, c'est quoi, ton adresse Twitter, c'est quoi ? Rappelle-la.
C'est Titi, c'est toi le boss.
Voilà. Titi, c'est toi le boss, c'est
en
très
toute simplicité.
En toute voilà. Exactement. Alors, Kevin, Thierry, reste avec nous. Tu vas écouter l'avis de Kevin sur ce qui s'est passé hier et ensuite on en débattra ensemble. Jingle Kevin Diaz, du coup.
Tu sais, un footballeur, c'est comme une poterie. Si, au début, elle commence par être déformée, mais pour la reformer, c'est impossible. Elle a séché, c'est terminé.
T'as séché vite, toi. Hein. Non.
Alors, on t'écoute.
Écoute, on n'a pas échangé avec Stéphane cet après-midi, mais il a exactement repris l'idée dont je parlais avec Jérôme Thomas en préparant l'émission, c'est-à-dire que je disais que l'OM se galatasarise, c'est-à-dire qu'on avait l'impression d'être à la sortie de l'aéroport d'Istanbul lorsque les supporters, alors je vais pas faire offense aux autres supporters d'Istanbul, hein, ça peut être Galatasaray, ça peut être Fenerbahçe ou Beşiktaş, mais ceux qui m'ont le plus marqué, c'était souvent les supporters de Galatasaray.
Je t'arrête tout de suite. Galatasaray, ils le font pour Léo Dubois, qui est latéral.
On est d'accord.
Je suis pas sûr qu'à Marseille, pour un latéral, il y ait 5000 personnes à Marignane.
Mais bien sûr, mais moi, je me rappelle surtout celui de Wesley Sneijder, de Didier Drogba aussi, qui avait été vraiment mémorable. Et là, de voir ces images.
T'as eu Lugano. Lugano, il a eu droit à l'aller. Et quand il est parti aussi.
Ah ouais, ça je savais pas.
Ouais.
Mais ça, Lugano, c'était Fenerbahçe.
Fenerbahçe.
Mais, ouais. mais c'est vrai que quand j'ai vu ces images, je me suis vu un peu en Turquie parce que c'est les supporters turcs qui ont vraiment institutionnalisé presque les accueils des joueurs comme ça à l'aéroport. Il y en a quelques-uns en Portugal aussi. Mais moi, j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça sympa parce que ça montre vraiment la ferveur qu'il y a à l'OM et c'est rare de voir ça en France. C'était bon enfant. Il y avait des fumigènes. Pour le coup, ça n'a pas été jeté sur les joueurs ou sur le terrain, mais ça a été vraiment craqué de façon festive. Et je trouve que même Alexis Sanchez, on l'a vu, il était surpris. Ça a surpris aussi au Chili. Et tu vois que en un accueil. Tu mets vraiment le joueur dans l'ambiance et ça m'a rappelé un peu ce que j'avais commenté avec Thibaut Leplat avant les vacances, c'est-à-dire l'accueil de Dybala à la Roma. Là, j'ai vu l'accueil de Jorginho Wijnaldum lors de la présentation pour le dernier match amical contre le Shakhtar. Je sais pas si, j'ai l'impression que tu vois qu'un club vit. Là, il y a, ça revit à la Roma, ça vit à Marseille. Après ce beau premier match, on avait tous des doutes sur le Tudor Bowl et la méthode Igor Tudor, mais en tout cas, ça a convaincu sur le premier match. Avec l'arrivée d'un joueur comme Alexis Sanchez, avec cette ferveur, on espère en tout cas que l'OM va réussir à fermer la plaie de Jorge Sampaoli.
Alors Thierry, est-ce que tu as été surpris toi-même par ce qui s'est passé hier soir ?
Normalement, tu es tout seul à l'aéroport.
C'est ça, logiquement, pas tout seul. On est surtout 3-4 généralement quand les joueurs de l'OM arrivent pendant le mercato. Mais j'étais agréablement surpris et j'attendais ce moment depuis des années parce que je voulais vivre, Kevin, un accueil à la Turque, mais à Marseille. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon, hier soir, il y avait un petit millier de supporters à Marignane. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'aéroport de Marignane est situé à peu près à une trentaine de kilomètres de Marseille. Donc c'est pas facile de se déplacer pour aller accueillir les joueurs. Donc
celui d'Istanbul n'est pas plus près.
Ouais, il est loin. Il est loin aussi celui d'Istanbul, ce que j'allais dire.
Oui, non, mais c'est possible ça, Stéphane. Mais ce qui s'est passé hier soir, c'est quelque chose d'exceptionnel pour le club. Parce que ça s'est jamais fait en France, donc on est encore à jamais les premiers pour avoir fait ça.
Excuse-moi, Titi, t'as oublié quand même Messi l'année dernière. Mais Messi, l'arrivée de Messi au Bourget, à l'aéroport du Bourget, il y avait quand même beaucoup de monde.
Oui, mais c'était organisé aussi. Là, c'était spontané, puisque même si l'OM avait communiqué avec les groupes, les gens étaient là dès 17h à Marignane, alors que l'avion d'Alexis Sanchez arrivait à 20h50. Donc, les premiers sont arrivés, oui, à 17h. On n'avait jamais vu ça.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un truc de bouche à oreille, en fait, entre supporters, en se disant on y va, quoi.
Ah, mais déjà, la veille sur les réseaux sociaux, tout le monde voulait venir à Marignane pour accueillir Alexis Sanchez. Et ce qu'il faut aussi souligner, c'est que Kevin l'a dit pendant son
avis,
son
ouais.
message là avant que son avis avant le débat. Les supporters ont craqué beaucoup de fumigène, mais les supporters marseillais ont nettoyé le parking et tout ce qui avait été utilisé comme pétard, comme fumigène devant l'aviation générale hier soir.
C'est une bonne info ça, merci.
Juste reprenons l'ordre de ce qui s'est passé parce que moi. Toi, tu nous dis qu'il y avait des supporters donc dès la fin d'après-midi qui étaient sur place. Moi, quand j'ai vu passer le tweet de Jacques Cardoz, le DIRCOM, qui disait « Arrivé à 20h45 », je me suis dit « Bon, en fait, c'est le club qui organise le truc ». Tu vois, en fait, Cardoz a fait ça pour prévenir, en fait. Enfin, raconte tout le déroulé, parce que ça veut dire que c'est pas un truc marketing qui a été monté par le club.
Non, après, je pense que le club a prévenu les groupes pour faire venir du monde, pour accueillir l'accueil que mérite Alexis Sanchez par rapport à la carrière et les titres qu'il avait gagnés, parce que c'est pas tous les ans qu'on a un joueur de cette trempe-là qui arrive à Marseille, donc c'était logique qu'il y ait du monde pour l'accueillir hier soir et qu'il se retrouve pas avec moi et puis trois ou quatre supporters.
Donc, pour toi, le dernier joueur de ce standing-là qui a joué à Marseille, c'est qui ?
Alors, avec autant d'engouement, je remonterais beaucoup. Bon, il n'y avait pas autant de supporters.
Non, mais je veux dire, avec un tel pédigré, joueur avec un tel pédigré.
J'aurais dit Gabriel Enze.
Non, c'est pas le même, c'est un pédigré très inférieur avant un coup à celui de Sanchez.
Oui, oui, oui. Sinon, après, en remontant très plus loin à Fabrizio Ravanelli.
Ouais. Mais c'est vrai que moi, je cherche aussi. Alors après, bon, attention. Hein.
Ils auraient pu accompagner Drogba à l'aéroport.
Ah, quand il est parti.
Ouais.
Ah non, bah là, il voulait pas qu'il parte, tu rigoles.
Ah oui.
Non, c'est pas la même histoire. Bon, et donc toi, tu enfin, c'est quand même un truc. Tu penses que ça m'a, que du coup maintenant, ça va devenir une habitude, ou que ça doit devenir une habitude en France, comme on le voit dans certains autres grands clubs, comme on l'a vu à Rome, ou comme on le voit dans en Grèce aussi, ça arrive régulièrement.
Bah, ça serait bien que ça se démocratise et que ça soit fait régulièrement, mais après. Tout dépend les joueurs qui arrivent. Après, je pense pas qu'il y ait 1000 personnes à chaque arrivée de joueur à l'Olympique de Marseille. Ça dépend du pédigré du joueur qui arrive.
Bien sûr, comme tu l'as dit, il y a aussi cette longue attente. Alors moi, je ne sais pas si elle sera satisfaite, cette attente. Mais tu vois, ça fait longtemps qu'on parle du grand attaquant. Le grand attaquant qui devait venir à Marseille. Alors on a cru, moi le premier, ça puisse être Arkadiusz Milik, qui n'a pas le CV de Alexis Sanchez, mais qui a quand même fait de beaux clubs européens, qui était une bonne idée lorsqu'il a été pris, qui a aussi, attention, hein, marqué des buts et rendu quand même des services à l'OM. Et j'espère pour lui que ce n'est pas terminé. Mais c'est vrai qu'un joueur comme Alexis Sanchez, qui débarque de l'Inter sans s'être fait des grosses blessures, même si oui, il a été en méforme, moi je l'ai beaucoup critiqué à Manchester United, pour moi c'était un joueur qui était en perdition en Angleterre, en tout cas sur une certaine période. Là il a un peu rebondi l'an dernier, c'est un bon coup. Moi j'ai entendu parler de Memphis Depay, j'ai entendu parler de Dries Mertens. Bon, finalement ça a été Alexis Sanchez, c'est peut-être celui qui a le plus gros palmarès. Moi j'aurais préféré les deux autres, parce que bon, Dries Mertens, voilà, je connais son hygiène de vie, je sais que c'est un mec qui est un peu plus vieux qu'Alexis Sanchez, mais là il a signé à Galatasaray, sauf blessure, je suis sûr qu'il va être décisif. Et Memphis Depay est beaucoup plus jeune, et on a vu ce qu'il a fait à Lyon pour la Ligue 1, c'est au-dessus. Maintenant, Alex Sanchez, moi je lui souhaite de réussir, et c'est aussi pour ça que à l'Olympique de Marseille, les supporters à Marignane hier ont eu autant d'engouement. C'est parce qu'on vient de le dire, peut-être depuis Ravanelli, où on a du mal à savoir.
Il y a des noms qui tombent, hein, Georges Weah, Morientes, Rudy Voller, bon.
Ouais, mais Morientes, c'était quand même
Georges Weah, oui, mais Georges Weah, il était vraiment
aussi fin de carrière.
En fin de piste, ouais.
Ouais, là c'est
Georges Weah, oui, bien sûr, c'est même au-dessus encore de
Alex Sanchez. Oui, bien sûr, mais là c'est de la toute fin de carrière, là c'est vraiment de la pré-retraite. Pour Alex Sanchez, tu peux quand même espérer qu'il ait encore 2-3 années.
Il y a quand même un sacré, faut pas se mentir non plus, il y a un sacré nombre de saisons où Alex Sanchez n'a pas été performant de façon continue.
Paris, Alexis Sanchez,
il a fait sa dernière grosse saison et remonte à Arsenal, quoi. Donc
oui, mais je veux dire, pour un club comme l'OM,
c'est vieux, hein.
Pour un club comme l'OM, aujourd'hui tu ne peux que avoir ce genre de joueur. C'est un Dries Mertens, oui, à 35 ans, ça c'est un Alexis Sanchez.
Non, mais c'est un vrai débat qu'on peut avoir, parce que quand tu mets, évidemment il n'y a pas de transfert, mais quand tu mets 3 millions nets de salaire sur un attaquant, tu peux peut-être espérer trouver un attaquant un peu plus jeune. Il y a deux options. Il y a effectivement, eux, ils ont fait. En tout cas, ce que j'aime encore une fois avec Longoria.
Non, mais avec Luis Suarez, c'est l'attaquant dont tu parles, un peu plus jeune, troisième classe européenne, mais qui peut, sur un malentendu, devenir un mec qui va te marquer beaucoup de buts. C'est possible. Donc, ils ont tenté ce pari-là. Ils ont Arkadiusz Milik, qui est un joueur un peu plus d'expérience.
Attendez, j'aimerais juste qu'on finisse avec notre ami Titi, c'est toi le boss. Titi, quand à sa conférence de presse aujourd'hui, Alexis Sanchez dit « Ouais, alors, on m'a dit que l'OM, c'était quand même un grand club. » T'avais l'impression quand même qu'il n'était pas hyper au fait de l'endroit où il est arrivé. C'est peut-être pas un peu vexant ?
Non, bah après, je pense qu'il sait quand même où il est arrivé, puisqu'il a parlé du joueur français de l'Inter, là, qui lui a parlé que l'Olympique de Marseille, c'est plus un bon club français. Oui, à Goumet, et qui il avait fait des recherches pour savoir un peu ce que c'était l'Olympique de Marseille. Mais je pense quand même qu'il sait où il est arrivé. Et puis, comme disait Kevin tout à l'heure, au Chili, ils ont interrompu les informations nationales pour montrer l'arrivée d'Alexis Sanchez en direct hier soir à Marignane. Donc c'est au Chili,
il est au Chili, ce que Mbappé sera à la France bientôt, ou ce que Zidane est à la France, hein. C'est un crack de crack. Au niveau de la sélection nationale, il n'y a pas grand chose à dire là.
Avec Vidal.
C'est ça. Donc, on est quand même content de récupérer un joueur de cette trempe-là, puisque ça faisait quand même très longtemps qu'on n'avait pas signé un joueur de ce calibre-là. Donc, Kevin.
Non, vas-y.
Non, mais faut qu'on fasse une pub. Thierry, merci beaucoup en tout cas.
Merci.
Et bah écoute,
merci,
on se suit. Hein.
C'est gentil, merci. Ben, bonne fin d'émission et puis au plaisir.
À bientôt, Titi, c'est toi le boss qui était donc avec nous dans l'after. À tout de suite. On va continuer le débat avec Nicolas Cougaud, spécialiste du football américain. Vous le savez, lucarne opposée. Il sera avec nous parce qu'il sait tout d'Alexis Sanchez. À tout de suite.
RMC.
L'after foot.
Gilbert
22h50 et l'after est là jusqu'à minuit avec Kevin Diaz, avec Stéphane Guy. Nicolas Cougaud nous rejoint et Lucarne Opposé, c'est le site de Nicolas, lucarne-opposé.fr si vous voulez avoir toutes les infos sur l'américaine, c'est le site de référence. Salut Nico. Ah bah du coup ça va me couper. Ça, j'adore quand je fais ça, tu passes toujours pour le truc, le bide. Bon bref, c'est bon.
Juste tout à l'heure j'allais enchaîner.
Il arrive Nicolas.
Du coup, quand je parlais aussi de Galatasaray en termes d'arrivée de joueurs, je parle aussi du profil des joueurs.
C'est marrant, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu sais, Hüseyin, notre spécialiste du foot turc qui nous écoute régulièrement, nous dit moi, j'ai vu passer les Van Persie, les Falcao, les Ozil, je vous le dis, 80% de chances que ça foire.
Non, mais c'est pour ça que j'allais finir par dire moi, j'ai envie de laisser les supporters marseillais rêver. Bah oui. J'ai envie
que ça marche.
J'ai envie de commenter.
Van Persie avait été joué en Turquie.
Oui, il a joué à Fenerbahçe. Alors Schneider, ça s'est très bien passé. C'est pour ça que je prenais l'exemple de Galatasaray. Schneider,
Drogba,
ça s'est très bien passé. Il y a eu aussi pas mal de Brésiliens. Il y a Luis Gustavo qui est parti de Marseille pour aller à Fenerbahçe. Et je pense que ça s'est quand même plutôt bien passé, au moins au début. Mais là, par exemple, c'est vrai que Ozil, il y en a la merde. Est-ce que ça va le faire? Je pense que oui, mais on va voir. Et c'est vrai que c'est beaucoup les clubs turcs qui ont fait revenir comme ça des gros joueurs européens avec un gros accueil, un gros engouement. Mais c'est vrai que souvent ça ne marche pas parce que le championnat turc, comme le championnat néerlandais ou portugais, il faut quand même avoir des jambes, il faut quand même courir et faire des efforts pour arriver à être performant.
Bon bah voyons hein, ce que ça va donner. De toute façon c'est difficile de tirer des plans sur la comète.
Après c'est sympa quand même de voir Alexis Sanchez en Ligue 1, c'est curieux.
Il a 33 ans après tout, il n'en a pas 36 hein.
Ouais. Puis il a quand même passé quelques temps là sans jouer.
C'est terminé la Supercoupe, victoire du Real face à Francfort, Clément.
Helsinki terminé en effet cette Supercoupe qui arrive dans la besace du Real Madrid. 2-0 à Alaba et Karim Benzema pour les buteurs. On aura vu les premiers pas officiels sous le maillot du Real Madrid de Antonio Rüdiger et de Aurélien Tchouaméni. C'est la 5e Supercoupe remportée par le Real Madrid qui rejoint le Barça ou Milan au palmarès de cette compétition. 4e Supercoupe également pour Super Carletto Ancelotti qui devient l'entraîneur le plus titré dans cette compétition, et puis encore un but de Benzema, on le rappelle, qui devient ce soir le 2e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. D'ailleurs Marca titré aujourd'hui Benzema des Euros parce que ce titre va certainement le rapprocher d'un prochain Ballon d'Or.
Et
merci Clément, bonne soirée. Oui Kevin,
je sais pas ce que vous en pensez messieurs, mais attention quand même au Real encore cette année. Je dis pas qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, mais quand même la continuité, Ancelotti, toujours le calme, la sagesse, et surtout un recrutement très intelligent. On connaît Tchouaméni, mais même Rüdiger, un joueur qui va leur faire du bien dans l'impact, dans l'agressivité, dans la roublardise. Franchement, ils ont pas pris Kylian Mbappé, et heureusement, parce que je pense qu'avec Kylian Mbappé, ils étaient imbattables l'année prochaine.
Alors, bon, Nicolas Cougaud est là pour de bon. Nico, bonsoir.
Bonsoir messieurs, bonsoir Gilbert.
J'ai fait la promo de Lucarne Opposé avant que tu arrives.
Très bien, entendu, c'est parfait.
Alexis Sanchez, toi, tu connais bien le Zozo, tu as suivi toute sa carrière. Ouais. Est-ce que tu es plutôt sur une ligne Stéphane Guy en te disant j'ai des doutes, ou est-ce que, comme beaucoup de supporters marseillais, tu t'estimes que c'est un énorme renfort pour l'OM?
Je serais peut-être pas. C'est toujours compliqué si je dis c'est un énorme renfort, parce que dès qu'il va rater deux dribbles, je vais me faire pourrir. mais c'est toujours comme ça. Après très honnêtement, c'est un joueur. Quand on veut aspirer à jouer la Ligue des Champions, je dis pas la gagner. Hein, j'ai dit jouer en Ligue des Champions. On a besoin de facteurs et de joueurs de ce calibre-là. C'est un joueur à part, Alexis Sanchez quand même.
Quand tu l'as suivi là ces dernières semaines, ces derniers mois, bon à l'Inter c'était plus le taulier qu'il a été par le passé. Tu te dis qu'il y a quand même de beaux restes quoi.
Ouais, c'est ça. Et il reste. Tu vois, par exemple, quand on le voit revenir en sélection avec le Chili, il reste un facteur X, comme je le disais à l'instant. Il reste un joueur important. Il est un joueur important au Chili pour la sélection, pour la presse chilienne, pour l'ensemble de tout. Enfin, voilà, c'est l'un des porte-drapeaux de la génération dorée. Hein, c'est l'un de ses plus beaux fleurons. Et ça reste un joueur à part dans l'histoire du football chilien. Donc oui. Et il a des restes. Franchement, il a de très beaux restes, oui.
Qu'est-ce que tu penses de lui physiquement? Parce que c'est le débat. Est-ce qu'il est cramé, pas cramé? Moi, je sais que son prime footballistique, bien sûr, tu passes 30, 31.
Alors, c'est quoi, Arsenal?
Ouais, bien sûr, c'est Arsenal. Ouais. À part Karim Benzema.
Donc, il y a presque 10 ans. Hein.
C'est 2016-2017, sa meilleure saison.
Voilà. Donc, à part Karim Benzema qui avait nous faire un prime tardif quasiment. Mais sinon, bon, voilà. Ses meilleures années sont passées.
Est-ce que tu penses que c'est un joueur qui est beaucoup dans l'énergie quand même. C'est ce qui faisait sa force.
Est-ce qu'il va avoir le coffre justement? Parce que Tudor, c'est quand même un entraîneur qui réclame énormément d'efforts avec et sans le ballon. Normalement, Alexis Sanchez, c'est jamais été un joueur qui a rechigné à faire des efforts. Mais là, est-ce qu'il va. Je sais pas, des matchs que tu as vus avec le Chili, est-ce que c'est comme Messi? Est-ce qu'avec le Chili, tu as l'impression qu'il met un costume et il est plus performant qu'en club? Est-ce qu'il a encore du gaz?
Ah bah alors, quand il est avec le Chili, tu faisais le parallèle avec Messi, toute proportion gardée, hein, on fait attention au parallèle, mais oui, il endosse une armure particulière, tu vois. Mais même ça, c'est vrai que la question du physique, elle va
se poser. Mais le Chili va pas à la Coupe du Monde quand même, Nicolas, si je me trompe pas.
Non, alors qu'ils allaient à la Coupe du Monde
régulièrement, au prime de Alexis Sanchez quand même.
Ouais, on est complètement d'accord. Non, mais on est d'accord. Et j'allais dire, justement, il endosse un costume particulier, il a un rôle particulier avec la sélection, mais même avec la sélection, quand tu vois les matchs, franchement, les 90 minutes, par moment, c'est dur. Voilà, pour dire les choses clairement. La question du physique, elle va vraiment se poser, ça, on est d'accord. De toute façon, on le voit bien. J'imagine que Johan Crochet de RMC en parlera beaucoup mieux que moi, puisqu'il l'a beaucoup plus suivi que moi en Italie. Mais voilà, il joue moins, il joue presque plus. Donc la question va forcément se poser au niveau du rythme, au niveau du coffre. Est-ce qu'il peut revenir à son prime? Ça, c'est une question.
Bah, le principe du prime, c'est qu'en général, tu reviens pas.
Il est passé.
Quand il est over, il est over.
ouais, c'est ça. Ouais. Mais voilà, j'avoue que pour l'instant, j'ai du mal à le voir enquiller des matchs de 90 minutes tout de suite.
Mais ça, par contre, ça peut être un problème. Ce que tu me dis là, ça peut être un problème parce que il va avoir le statut de quelqu'un qui doit jouer 90 minutes ou qui veut peut-être jouer 90 minutes. Maintenant, s'il a la lucidité, si ils arrivent à se mettre dans un bureau avec Dimitri Payet et qu'ils disent, attends, mon coco, toi, t'as une patte magique, moi, j'ai de l'énergie, j'ai du talent, donc, et on va se faire des 60-30, c'est-à-dire que moi je vais faire 60 minutes et toi tu vas finir les 30. S'ils arrivent comme ça, et inversement pour certains matchs, tu vois, et peut-être pour les gros matchs, on aligne les deux. Si les deux arrivent à avoir la conscience que en jouant comme ça, parce que quand tu arrives à cet âge-là, il faut aussi être conscient que tu ne peux pas tout jouer, que tu ne peux pas prendre pour offense chaque fois que tu seras remplacé ou chaque fois que tu seras remplaçant, si ces deux-là ont l'intelligence de mettre leur ego de grand sportif et de grand footballeur de côté, ça peut marcher. Maintenant, si les deux ils veulent jouer tous les matchs et que la caméra du diffuseur elle est sur Dimitri Payet à chaque fois qu'il y a un but d'Alexis Sanchez et inversement, c'est clair que ça peut mal se passer.
Mais après il a jamais, tu vois, par exemple il avait absolument pas un statut de titulaire à l'Inter, il a pas posé de problème particulier, tu vois.
Et là t'arrives à Marseille,
on est complètement d'accord. Après, il a une qualité qui peut être un défaut, justement par rapport à ce que tu dis, c'est que Alexis Sanchez, quand il est sur un terrain, il donne tout. Et jusqu'au bout, en fait. Donc, est-ce qu'il est capable d'avoir la lucidité de se dire, maintenant je suis cuit, je vais essayer de me poser, machin, on verra. On va voir. Normalement, voilà, il arrive à un âge où il est censé être un petit peu plus mature aussi. Donc voilà. Mais par exemple, tu vois, quand il joue avec la sélection chilienne, bah, il donne tout jusqu'au bout, hein, même si parfois tu te dis, Alexis, oui, faut sortir là. Mais bon. On peut pas, enfin c'est compliqué. En plus avec la sélection, c'est pareil. Il a un statut à part. Je disais, c'est génération dorée. C'est les gamins de 2007 qui sont troisième à la Coupe du Monde des U20, qui ont fait tout gagner au Chili, enfin tout gagner, qui ont fait gagner la Copa América au Chili deux fois. Voilà, c'est des joueurs. Enfin, tu vois, c'est des joueurs qui ont un statut qui dépasse leur simple rôle de joueur. Quoi.
Après, le fait de ne pas jouer la Coupe du Monde, ça peut être un avantage pour Alexis Sanchez et pour l'Olympique de Marseille. Parce que ni lui ni Payet ne seront concernés. Donc à cet âge-là, quand même, avoir une belle pause dans la saison,
ça va faire une remarque.
Merci Stéphane.
Merci Nico.
Eh ben, je vous en prie, messieurs.
Que l'on retrouve donc sur lucarne-opposé.fr. Le gros dossier sur Luis Suarez d'ailleurs. De retour en Uruguay.
Exactement.
Il y a Copa Libertadores en ce moment là.
Ouais.
Ça donne quoi rapidement là ? On est sur quel c'est quoi ? On a passé l'écart là, c'est ça ?
Ouais, on est sur l'écart. Bah, Flamengo est passé.
Flamengo est en demi ?
Ouais, Flamengo est en demi. On est sur Atlético Mineiro Palmeiras ce soir. Ça devrait être sympa, ça. Mm-hmm. Et puis, bon, on va finir contre Brésilien normalement.
Ah oui.
Bon. Ouais, voilà.
Décidément, c'est les meilleurs. Les clubs brésiliens, ouais. Ils éclatent tout le monde. Merci, voilà. Nico. Bonne soirée.
Merci.
Dans un instant, Farid, le 32-16, il est supporter de Paris. Et là, quand il a entendu la passion à Marseille, je crois que ça l'a un peu contrarié. Donc, on va voir s'il en pense. Avant de parler de la Supercoupe du Real de Francfort et du système des sociaux remis en question par Paulo Breitner, crime de lèse-majesté de Paulo qui a suscité le débat. On le fera ensemble, les sociaux. Est-ce que ça sert encore à quelque chose ? C'est dans l'after avant minuit.